Suno Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'usage nocif de l'alcool entraîne dans le monde 3 300 000 décès chaque année, soit 5,9% des décès. Mais dans la tranche d'âge 20-39 ans, près de 25% du nombre total de décès sont attribuables à l'alcool. Le binge drinking, qui consiste à en absorber beaucoup en un temps très court, est responsable d'intoxication aiguë pouvant entraîner le décès par arrêt cardiaque, mais aussi d'accidents. Quels sont les traitements et la prise en charge pour ces jeunes? Que faire en termes de prévention? C'est ce qu'on va avec mon invité aujourd'hui, le professeur Amine Benyamina, qui est psychiatre addictologue. Il est chef du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, en région parisienne. Il est président de la Fédération française d'addictologie et il vient de publier « Comment l'alcool détruit la jeunesse, la responsabilité des lobbies et des politiques ». C'est un livre qui paraît aux éditions Albin Michel. Si vous avez envie d'intervenir, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, nous aurons également au téléphone le docteur Jean-Louis Jon, qui est psychiatre à l'hôpital de La Quintigny à Douala, au Cameroun.
RFI.
Professeur Amine Benyamina, on parle moins des dangers de l'alcool que de ceux du tabac. Pourtant, en fait, le nombre de morts est assez proche. Je parle de la France, hein. 73 000 pour le tabac, 50 000 pour l'alcool. On parle très peu des dangers de l'alcool.
C'est pour ça qu'on a décidé de faire ce livre. C'est édifiant. La France a un réel problème avec l'alcool parce qu'on n'arrive pas à finalement trouver le curseur. Parce que tout le monde plus ou moins boit. Finalement, l'alcool, le vin fait partie de la culture, à la fois intellectuelle et spirituelle. C'est l'attribut du bonheur, du bien-être et de la convivialité. Mais derrière ça, il y a beaucoup de familles, beaucoup de personnes, dans l'isolement de leurs problèmes, vivent un drame qui est celui de l'alcoolisme et des problèmes liés à l'alcool. Et donc forcément, ce qui est vécu sur le plan individuel est finalement altère une vision claire du problème de santé publique.
Et vous dites carrément d'ailleurs que la principale drogue chez les jeunes aujourd'hui, c'est l'alcool.
C'est l'alcool, c'est une drogue qui est présente et à laquelle s'agressent d'autres drogues, le cannabis, les médicaments, les psychostimulants, et qui attirent notre attention forcément parce que ce sont des drogues interdites et ce sont des drogues qui viennent d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle on est moins interpellé par ce qui se trouve dans l'épicerie du coin ou dans n'importe quelle supérette de notre pays.
Et vous démarrez avec le binge drinking, vraiment qui est quelque chose qui nous vient plutôt des pays anglo-saxons. On a toujours eu plutôt en France une consommation d'alcool, je dirais, qui pouvait être importante, mais qui venait petit à petit tout au long de la soirée. La technique du binge drinking, c'est totalement autre chose.
Alors pour les auditeurs, on a souhaité avec Marie-Pierre Saint-Métier, qui est mon co-auteur, hein, qui est une collègue, qui est votre collègue d'ailleurs, qui est journaliste. Donc on a souhaité parler du binge drinking parce que c'est un phénomène qui est une porte d'entrée assez finalement saillante. Mais on peut avoir des problèmes d'alcool sans passer par le binge, même en étant jeune. Alors c'est vrai que ça vient d'ailleurs, mais certains me disent, écoutez, nous on a fait dans les fêtes à droite à gauche, dans des régions de France, on a toujours bingé. Non, simplement la différence.
Moi je connaissais pas quand on était jeune.
La différence, c'est que lorsqu'on consommait de manière claire sous le mode de la compétition, c'est qu'on avait un objet finalement. Là, l'objet n'existe plus. On boit pour boire et on se fait une compétition sur la manière avec laquelle on tient et la quantité de consommation. Et surtout, on a affaire à un phénomène qui touche des jeunes, de plus en plus jeunes, et puis avec une égalité, hélas, d'atteinte aussi bien chez les garçons et chez les filles.
Et alors justement, quels sont les risques? Parce qu'on évoque toujours la question de la dépendance. Vous dites que c'est pas le premier problème, finalement.
Non, les risques, on les voit. C'est l'effet divers. C'est quelqu'un qui tombe, du haut d'un pont. Ce sont des accidents de la voie publique. Ce sont les problèmes de risque. Ce sont les mises en danger. Et plus tard, il y a un petit pourcentage qui commence à présenter des maladies, notamment la dépendance à l'alcool, ou des problèmes somatiques que l'on trouve chez des personnes d'âge plus mûr. C'est un phénomène récent.
Quel est l'impact, justement, aussi de cette consommation très forte, très rapidement, sur le cerveau? Est-ce qu'on en sait un peu plus?
Oui, on en sait un peu plus. Il y a des travaux qu'on a eu l'occasion d'ailleurs qu'on montre dans notre ouvrage, qui montrent que le cerveau est abîmé lorsqu'on fait des examens approfondis, non, un peu d'imagerie, un peu de... s'abîme assez vite. On voit maintenant, on a des cerveaux de jeunes consommateurs, de bingers, pour faire, pour utiliser
comme ça qu'on
cette...
les appelle, du
voilà,
coup, les bingers.
Pour utiliser cet anglicisme, on a des atteintes maintenant de plus en plus. Il y a des articles récents, ça, c'est
donc des difficultés d'apprentissage. C'est ça que
il y a
ça veut
des
dire.
Difficultés fines d'apprentissage lorsqu'on répète un peu ces phénomènes. On les a, ça existe, c'est la réalité. C'est que l'alcool est un produit qui n'existait pas à l'état normal dans l'organisme. Contrairement à toutes les autres drogues, c'est que toutes les autres drogues ont finalement leur double naturel chez nous. Comme le cannabis, on a les cannabinoïdes naturels. On a un certain nombre de drogues qui ont finalement leur double naturel. Comme les opiacés, on a les opioïdes, mais pas l'alcool. L'alcool est un produit qui vient faire effraction dans un organisme qui se défend en produisant de la maladie.
Les auditeurs sont nombreux à appeler pour vous poser des questions, pour avoir des conseils, qui s'inquiètent d'ailleurs de leur propre consommation. On a Cardinal qui nous appelle de Lyon, donc en France. Cardinal, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour à toute l'équipe de RFI.
On vous écoute.
Alors, au fait, moi je m'inquiète de ma consommation d'alcool qui devient de plus en plus considérable, voire à la limite abusive. En effet, je bois tous les week-ends et parfois même dans la semaine, surtout en période estivale. Alors, cette consommation régulière d'alcool pourra-t-elle nuire à ma santé à l'avenir?
Et alors, moi, la question qu'on a tout de suite envie de vous poser, c'est quand vous buvez, quand vous sortez et que vous buvez, c'est quelle quantité?
Ben, au fait, c'est une quantité considérable, hein, vu que étant étudiant, au fait, on s'organise des soirées presque tous les week-ends, et après ça finit par une consommation vraiment considérable.
Et alors, donc vos questions, c'est est-ce qu'il peut y avoir un impact dans l'avenir, c'est ça? Est-ce que ça peut...
Oui, effectivement, c'est ça la première question, et la seconde question est que, en fait, et comment faire pour contrôler cette consommation
Comment contrôler? Et vous buvez quoi?
Ben, de la bière, a priori, des fois de rosé, parfois du vin blanc. Ben voilà, ça dépend, mais pas des
alcools forts, entre guillemets.
Non.
Mais enfin, quand on en boit beaucoup, ça peut faire beaucoup au bout du compte. Professeur Amine Beniamina, deux questions dans la part de Cardinal. D'abord, la question de l'avenir. Quel peut être l'impact à
Mais les jeunes, il a 28 ans, il a encore la capacité de pouvoir récupérer. L'impact, c'est qu'il a conscience. C'est beaucoup, hein. Cardinal, vous avez conscience que vous buvez beaucoup. Et c'est très important d'abord de le voir et de s'en rendre compte. Alors, vous n'avez pas le mécanisme classique quand on est alcoolodépendant, ce qu'on appelle le déni. Donc ça, c'est important.
Ça, c'est le premier point important.
C'est hyper important. Vous êtes jeune, vous avez une capacité à pouvoir contrôler, et il faut rompre ce rituel de consommation étudiante ou non à 28 ans. Donc vous avez peut-être fini vos études ou vous êtes en train de les finir, et donc probablement il ne faut pas faire ça tous les week-ends, il ne faut pas boire la semaine.
Mais c'est compliqué, parce que je trouve que la question que pose Cardinal, elle est essentielle pour les jeunes. Et bien, ils ont envie de sortir avec leurs amis le week-end, mais comment contrôler dans la soirée, c'est ça?
Si on n'arrive pas à contrôler sur le rituel du week-end, il faut baisser la quantité. Il faut se donner des limites, c'est-à-dire au lieu d'acheter des canettes, ce soir on en prend deux, trois.
Trois bières.
On fait avec ça. Et ben si on est à moitié heureux, on sera à moitié heureux, ce qui m'étonnerait. Donc on fait avec ça. Il faut finalement filouter avec soi-même pour pouvoir sortir de ce qui globalement est en train de s'organiser comme un objectif de perdre du contrôle et de la liberté vis-à-vis de ce produit.
Et Cardinal, ça vous paraît possible ça dans une sortie avec des amis de limiter à deux, trois bières?
Ben, c'est pas du tout évident, il y a un peu de compétition, en fait. Après, d'autres ont l'habitude de prendre beaucoup. Après, si vous n'en prenez pas comme eux, après, en fait, ça finit par des blagues pas du tout cool.
Et ça, comment on peut contrer ça? Parce que vous avez un rôle à jouer là-dessus, Cardinal. Parce que je veux dire, c'est une compétition qui est quand même un peu stérile de
ouais,
boire en
effectivement, c'est... Ben après, l'objectif c'est de se faire du plaisir. Après, ben voilà, seulement on n'arrive pas à contrôler cette consommation de plus en plus abusive.
Bon, ouais. Je trouve que Cardinal pose bien la question.
C'est intéressant. Mmh. Mais il faut pas avoir honte d'être ringard et d'être le premier à rompre avec ça. Hein. Si vous rompez le premier, Cardinal, parce que vous avez fait l'initiative de nous appeler, vous allez surprendre. En quelque sorte, ils vont essayer de vous entraîner. Bah, arrête, tu peux. Hein. Et au bout d'un moment, c'est pas cool. Au bout d'un moment, vous verrez qu'un certain nombre de vos collègues ou de vos camarades vont se poser la question sur leur propre consommation, même dans l'intimité.
Soyez précurseur au lieu d'être ringard. Soyez précurseur. Merci beaucoup, Cardinal. Bon courage à vous et tenez-nous au courant.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, on parle de l'alcool, de dépendance à l'alcool, particulièrement chez les jeunes. On a Sultan qui nous appelle de Guinée-Conakry, de l'Abbé. Sultan, bonjour.
Oui, bonjour, Claire.
On vous écoute.
Et au fait, moi, j'ai commencé à boire pendant les week-ends avec les potes. Mais petit à petit, je me suis adopté à boire maintenant moi seul.
C'est ça. Maintenant, vous buviez d'abord avec des amis et aujourd'hui, vous vous apercevez que vous buvez seul et même pendant la journée, c'est ça?
Oui.
Et quelle quantité vous consommez?
Deux fois, j'ai consommé jusqu'à 8 boîtes de Guinness, deux fois. Ouais,
8 canettes de bière par jour. Et quelle est la réaction de votre entourage sur cette question?
En fait, ma maman m'empêche tellement, mais comme je me suis adoptée, je ne peux pas abandonner d'abord. Parce que l'autre fois, lorsque j'ai tenté d'abandonner, je suis tombé malade. En fait, je ne suis pas limé. Jusqu'à présent, je n'y arrive pas à abandonner.
Et quand vous dites c'est abandonner l'alcool, hein, c'est ça?
Oui.
Vous n'arrivez pas à arrêter. Alors, professeur Amine Beniamina, Sultan, pareil, se rend compte qu'il y a un problème, mais comment faire pour s'en sortir?
Là, il y a un vrai problème, Sultan. Alors, vous avez quand même un certain nombre d'éléments qui sont péjoratifs, mais vous avez un élément extrêmement positif. Vous êtes jeune, vous avez 21 ans. Même si en arrêtant de boire, vous êtes malade, je présume c'est parce que vous tremblez, vous avez de la sueur, vous n'êtes pas très bien. Vous avez ce qu'on appelle un syndrome de sevrage à l'alcool. Et donc, le fait de reboire vous permet d'éviter que ce syndrome de sevrage ne persiste. Et vous avez conscience que vous avez un problème. Je pense que vous êtes sur les premières étapes de la dépendance. Il faut absolument vous faire aider. Vraiment. Parce que là.
En fait, c'est ce que vous êtes en train de lui dire. Oui. Il ne peut pas faire ça tout seul.
Non. Voilà. À ce niveau, vous avez besoin de vous faire aider par un collègue, un médecin généraliste ou bien par quelqu'un qui connaît un peu ces questions. Et je peux vous assurer qu'au bout de quelques jours, vous allez gérer ce syndrome de sevrage. Et ensuite, tout le travail pour vous, Sultan, c'est d'éviter de reconsommer. Et c'est ça qui est important. C'est ce qu'on appelle la gestion de la rechute. Et je pense que votre mère, qui évidemment est angoissée, mais qui sera toujours à vos côtés, vous aidera et votre famille vous aideront à tenir. Hein, parce que je pense que là, quelque part, vous êtes un peu pris dans le piège de la boisson.
Et le sentiment qu'il a, Sultan, quand il arrête du coup d'être malade, c'est un sentiment effectivement réel. Hein, c'est que,
évidemment, ouais. C'est la reprise de l'alcool. Par un mécanisme connu, hein, neurobiologique et chimique, fait que le syndrome de manque disparaît. Pourquoi? Parce que la consommation de la drogue et de l'alcool en particulier va modifier ce qu'on appelle la perméabilité des récepteurs dans le cerveau et dans le corps. Et lorsqu'on arrête, ça va modifier. Ça les met un peu au repos. Et quand on arrête de consommer, ces récepteurs vont demander à être finalement alimentés par ce produit extérieur. Et c'est ce qui fait ce syndrome de manque.
Sultan, ça vous paraît possible d'aller consulter pour ça?
Oui. Comme j'ai envie d'arrêter.
Oui, vous avez envie d'arrêter, hein, c'est vraiment ce qu'on entend. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut peut-être demander à des médecins qu'on connaît sur le continent africain, qui sont addictologues et qui travaillent sur ces questions, de nous dire s'il y a un contact en Guinée-Conakry. A priori, j'en ai pas pour l'instant, mais d'essayer de nous l'envoyer et qu'on vous donne un contact de médecin. D'accord, Sultan ?
Oui.
Merci beaucoup, en tout cas, pour votre appel et bon courage à vous. On a Théadoum qui nous appelle de Doba au Tchad. Théadoum, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, j'ai 28 ans Claire et au départ je n'aimais pas l'alcool. Je n'avais même pas d'idée de boire mais j'ai été influencé par les amis qui étaient tous des buveurs donc ils m'ont mis dans la chose. Et quand je commence à boire, je suis devenu plus pire que eux. Je commence 11 à 12 bouteilles de Guinness par jour et j'ai remarqué que je n'arrive même pas à vivre correctement sans l'alcool. Ma vie et l'alcool sont presque liés. J'ai l'impression de mieux travailler quand je prends de l'alcool. J'ai du désir pour ma femme lorsque je bois. Pourtant, j'ai moins de désir si je ne touche pas à la boisson. J'ai l'impression que tout fonctionne mieux en moi avec l'alcool. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'arrêter parce que ça fait 3 ans que je suis devenu esclave de l'alcool. Mais je ne sais pas trop comment faire pour sortir de là, quoi.
C'est très intéressant ce que vous dites, Théadoum, parce que vous dites la vie est plus facile avec l'alcool, et puis vous dites aussi je suis devenu esclave de l'alcool, professeur Benyamina.
En partant du principe que ce que dit Théadoum, c'est qu'au départ il aimait pas ça, et l'environnement l'a poussé à consommer, et comme il avait une vulnérabilité personnelle, une prédisposition à supporter, et il est passé de l'autre côté.
Alors c'est ça votre premier point, on est totalement inégaux face à l'alcool.
Ah ben c'est clair, on est inégaux de par la conformation sexuelle, homme-femme, de par aussi les dispositions, mais il y a pas que ça. Il y a aussi l'offre de la société et le milieu dans lequel on vit. Alors, tu bois, s'il te plaît, voilà, il y a ça.
L'entraînement des amis.
Et ensuite, les phénomènes s'organisent comme ça. C'est pour ça qu'il faut rompre un des éléments pour pouvoir s'en sortir. Et c'est jamais perdu, hein, vous savez, c'est jamais perdu.
C'est ça qu'il faut vraiment dire à Théadoum. Pour Théadoum, c'est le même conseil que pour
Pareil,
ce temps-là, il faut aller consulter.
C'est une situation qui est assez similaire avec quand même un Théadoum qui a 28 ans et Sultan avant qui avait 21 ans. C'est important.
Alors, pour le coup, Théadoum, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a un centre, et on les aura tout à l'heure au téléphone dans la deuxième partie de l'émission, qui est le CEDIRA à N'Djamena au Tchad, qui est un centre de prise en charge d'addictologie très intéressant. Et là, vraiment, vous pouvez aller consulter Théadoum. Ça vous paraît possible d'aller à N'Djamena?
Oui, bientôt j'irai à N'Djamena.
Alors, très allez bien. Les voir, parce que, en fait, ce que vous êtes en train de dire, professeur Benyamina, que ce soit à Théadoum ou bien à Sultan, c'est que c'est très difficile de s'en sortir seul.
À ce niveau de la consommation, Claire, oui. Il faut se faire aider, parce que ce n'est pas qu'il ne soit pas capable de s'arrêter, vraiment, mais c'est plus facile pour éviter de retomber dans l'adversaire qui est bien plus fort qu'eux en ce moment. Mais la bataille est loin d'être perdue.
Ça, c'est important et c'est vraiment bien de le dire. Merci beaucoup, Théadoum, et bon courage à vous. Pareil, on peut vous donner hors antenne les coordonnées du CEDIRA. Ophélie va vous rappeler pour vous les donner. Merci beaucoup, Théadoum. On a Abdel qui nous appelle aussi du Tchad, mais de N'Djamena. Abdel, bonjour.
Bonjour, Claire.
On vous écoute.
Et bonjour à toute l'équipe. Personnellement, je ne bois pas. Ben, j'ai beaucoup des amis qui boivent. C'est que moi, je n'arrive pas à comprendre. Les amis qui boivent sont solidaires entre eux. Ils rejettent les autres, c'est-à-dire nous qu'on ne boit pas. On se sent rejeté. Il y a une non-considération de leur part vis-à-vis à nous. Donc, ce que je n'arrive pas à comprendre. Moi, personnellement, je ne les en veux pas. Ils peuvent boire comme ils veulent.
Mais pourquoi,
amical,
c'est ça. Pourquoi ils n'acceptent pas ceux qui ne boivent pas?
C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dans l'alcool
qui fait que les gens veulent rester entre eux. Professeur Amine Benyamina, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Abdel?
Bon, il n'y a pas que l'alcool. Il y a un phénomène finalement de groupe et d'identification des membres du groupe qui fait que celui qui porte des valeurs différentes vient remettre en question ce qui est l'élément fédérateur du groupe. Et là, pour le coup, c'est l'alcool. Et puis c'est le refus de voir la réalité. C'est le principe du déni qu'on a cité tout à l'heure. Mais vous avez un rôle important, Abdel, parce que si vous appelez, c'est que vous êtes inquiet pour vos amis et vous avez raison de le faire. Et c'est en injectant un regard différent qu'on arrive à sortir un certain nombre de personnes de cette emprise que constitue l'alcool. Et au lieu de se sentir rejeté, il faut leur dire, vous êtes vous en difficulté. Évidemment, on ne va pas vous transformer en militant prosélyte, mais votre témoignage, déjà à entendre dans les ondes, est très important.
Très important. Merci Abdel. Il y a très peu de médicaments, professeur Benyamina, qui sont efficaces dans le traitement de l'alcool.
Il y a les grandes polémiques. On a quelques médicaments historiquement qui aident, mais qui ne constituent pas finalement un arrêt automatique de l'alcool, comme on pourrait voir un antibiotique venir faire éteindre en 5-6 jours une infection. Il y a 3 médicaments qui ont une autorisation de mise sur le marché. Il y en a un qui a une ATU, que tout le monde connaissait.
C'est ce qu'on appelle autorisation temporaire d'utilisation.
Voilà. Et donc, même si évidemment on a des résultats qui sont plus ou moins importants, il faut essayer, il faut aider. Il y a des personnes qui vont très très bien avec les médicaments qui sont sur le marché, d'autres un peu moins bien. Le médicament joue un rôle important, il aide. On a vu beaucoup de gens sortir de l'impasse. Il n'y a pas que ça. Il y a la psychothérapie. thérapie, l'aide, il y a le soutien, il y a aussi les associations d'usagers qui peuvent aider, et puis il y a une responsabilité très importante.
Collective,
c'est la voix portée par les autorités et par les pouvoirs publics, et l'image de l'alcool dans la société.
Alors on y reviendra dans la deuxième partie, sur toute cette question des lobbies que vous dénoncez, aussi sur les traitements et sur la question du baclofène. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler de ces problèmes d'alcool chez les jeunes.
Retrouvez Priorité Santé après le Flash Info avec Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la consommation excessive d'alcool chez les jeunes et des risques pour leur santé avec le professeur Amine Benyamina, qui est chef du département de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Il vient de publier « Comment l'alcool détruit la jeunesse, la responsabilité des lobbies et des politiques ». C'est un livre qui paraît aux éditions Albin Michel. Il est également président de la Fédération française d'addictologie. Et je vous rappelle le téléphone, le 33 1 80 82 75 75.
Champagne, vodka, whisky, coca. Champagne, vodka, whisky, coca. Champagne, vodka, whisky, coca. Champagne.
L'alcool c'est de l'eau.
L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau.
C'est une chanson de Camro, un Camerounais qui a fait un tabac à l'époque où c'est sorti. L'alcool, c'est de l'eau? Non, professeur Amine Benyamina.
Ah non, c'est pas de l'eau. Il y a de l'eau dans l'alcool, mais c'est pas de l'eau.
C'est pas de l'eau.
C'est édifiant.
Ça contribue à la banalisation de l'alcool, ce genre de chanson?
Ah bah, terriblement. Ouais. Il y a le contenu du texte, et puis l'incidence et l'importance de celui qui chante. Ce sont des stars, des demi-stars, des demi-dieux. Et donc, il y a un effet d'imitation qui est absolument édifiant là-dedans.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, là?
Il faut dire que l'alcool, c'est pas de l'eau, et ce qui se raconte, c'est pas bon du tout.
C'est ça. Docteur Jean-Louis Jean, vous êtes psychiatre à l'hôpital de la Quintigny à Douala au Cameroun. J'imagine que cette chanson de Camro, vous la connaissez?
Oui.
Vous l'avez entendue?
Oui,
et c'est un peu ce qui se dit au Cameroun, finalement, l'alcool c'est de l'eau?
Ben oui, c'est ce que beaucoup de gens pratiquent. Parce que boire de l'alcool, c'est une attitude normale.
Oui.
Ne pas en boire, c'est quelque chose qui est considéré que vous n'êtes pas un homme bien fait, vous manquerez quelque chose.
Oui, vous n'êtes pas normal si vous ne buvez pas. Docteur Jean-Louis Jean, parlez bien près du téléphone, bien près du micro pour qu'on vous entende. Est-ce que vous avez des chiffres sur l'ampleur de la consommation d'alcool au Cameroun?
Oui, mais disons que si, par rapport à la bière, vous savez, le Cameroun est l'une des, au niveau de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, nous sommes les plus consommateurs de bière.
C'est ce qu'on voit dans les témoignages qu'on a entendus dans toute la première partie de l'émission, c'est la consommation incroyable de bière.
De bière, oui, oui. Parce qu'on a à peu près, au niveau de la consommation de l'alcool traditionnel, c'est 10% de la population, mais la bière, c'est de façon exponentielle. Nous sommes à peu près, sur tous les alcools, peut-être le deuxième pays au niveau de l'Afrique centrale.
Oui, plus gros consommateur d'alcool. Et à partir de quel âge? Je crois très tôt.
Oui, très tôt. On s'est rendu compte d'une étude qui a été faite au Cameroun il y a quelques années, et au niveau scolaire, certaines écoles au niveau de la capitale à Yaoundé. Et là, on s'est rendu compte que les premières consommations commençaient autour de 6 à 12 ans. C'était 41% des jeunes.
6 à 12 ans ou 10-12 ans,
c'est 6 à 12 ans.
Ouais.
6 à 12 ans chez les garçons. Et de 12 à 16 ans chez les filles. On avait vu que 34% des jeunes en milieu scolaire, surtout en ville, avaient déjà eu une consommation d'alcool.
Professeur Amine Benyamina, plus on commence tôt, plus il y a des risques de dépendance. Alors sur l'alcool.
C'est une règle absolument inaliénable. Plus on commence tôt, plus les risques de devenir dépendant et de présenter des maladies liées aux addictions et l'alcool en particulier sont importants. Et plus le risque de détruire le cerveau et les organes sont importants. Ce que j'entends de la part du collègue est édifiant et pas étonnant. Si l'Afrique et le Cameroun, puisque c'est de ça dont il s'agit, et consomme beaucoup de bière, ce n'est pas le fait du hasard. La bière ne pousse pas au Cameroun, que je sache. Il y a des phénomènes d'organisation industrielle qui poussent les gens à consommer et qui organisent finalement une image positive de ce type de produit. Ça, ça n'est jamais fait du hasard. Ce n'est la publicité, et puis le noyautage, l'infiltration des populations jeunes, et puis les valeurs inversées. La consommation d'alcool, c'est bien. On ne remet pas en question les choses. On a vécu ça en France il y a quelques années. Il y a 30 ans, on consommait deux fois plus d'alcool. On a changé. Et, là, et finalement, on en parlera tout à l'heure. La manière de proposer les choses change et on met en avant des valeurs nouvelles et on associe l'image positive de l'alcool.
Effectivement, docteur Jean-Louis Jon, vous constatez un vrai lobby de l'alcool et particulièrement des fabricants de bière au Cameroun?
Oui, nous avons une grande industrie par le groupe Castel. C'est-à-dire que la bière augmente de façon, la consommation de façon exponentielle. Ça dépasse même. Seules les industries brassicoles ne connaissent pas la crise au Cameroun. Parce que les bars sont pleins du matin au soir. Et dans plusieurs quartiers, vous pouvez retrouver 5 à 10 à 10 bars. C'est-à-dire que les endroits de beuverie, c'est très fréquent.
Et avec beaucoup de publicité
beaucoup de publicité. Et je vous parlais même d'une anecdote où certaines rues au Cameroun, les Camerounais comme dans leur humour, ce sont les noms des bars qui prennent la place des
noms des rues.
Des rues.
D'où l'importance de cette consommation. Qu'est-ce que vous arrivez à mettre en place en termes de prise en charge et de traitement?
Bon, au niveau de la prise en charge, je vous ai fait aussi ce commentaire pour vous dire que au Cameroun, la maladie alcoolique n'existe presque pas.
Complètement nié.
Hein? Je vous disais, c'est pour ça que je disais que ça fait partie des comportements normalisés. Voire, au niveau des villages, ça commence même très tôt, parce que tous les soirs ou tous les matins, les gens vont prendre la consommation du vin de palme, et c'est autour du vin de palme qu'il y a la causerie de personnes. Et les jeunes, ce sont eux qui vont cueillir ce vin de palme dans la forêt.
Et alors, vous dites, cette maladie n'existe pas au Cameroun. Évidemment qu'elle existe et très largement, mais elle est complètement niée. Mais tout de même, il y a quand même des patients que vous voyez en consultation parce qu'il y a un moment où la famille trouve que c'est quand même trop.
Mais je vous ai dit qu'en l'espace d'à peu près 20 ans, j'ai vu à peine 10 personnes qui sont venues pour des problèmes d'alcoolisme. Et ne sont pas venues par eux-mêmes. C'est la famille qui les a conduites à cause des conséquences que les gens voient. Je sais quand même qu'il y a une forte population qui va à cause des conséquences de l'alcool chez nos confrères de gastro, mais chez nous, en fait, on ne les voit vraiment pas beaucoup. On voit beaucoup de personnes qui consomment la drogue, mais l'alcool, vraiment pas.
Parce que c'est nié comme problème.
Oui, parce que c'est nié comme problème.
Vous trouvez que vous voulez réagir pour
ça? Oui, parce qu'en plus de ça, le collègue dit, ce sont nos collègues de gastro qui les voient, donc ils sont vus à un stade où les problèmes sont déjà installés, des problèmes de foie, des problèmes gastriques, et ça c'est édifiant. Quand on ne nomme pas les choses, on rajoute un malheur au malheur. C'est pas moi qui l'ai dit, je sais plus qui l'a dit, mais c'est exactement ce qu'on vit. Mais on a la même chose, vous savez, en France et en Europe, autrement. Simplement, on voit qu'en Afrique, on est dans un système qui est totalement livré, finalement, entre les mains des grands groupes, et on a une jeunesse qui ne se remet pas en question et qui ne pose pas le problème tel qu'il est.
Docteur Jean-Louis Jon, juste une dernière question. Est-ce que le gouvernement mène des campagnes de sensibilisation sur les dangers de l'alcool?
Et disons que le gouvernement, il y a quelques années, a pris un certain nombre d'initiatives. Par exemple, augmenter le prix de l'alcool. Mais malgré ça, et puis au niveau des écoles, faire en sorte qu'il y ait pas de débit de boissons aux alentours des écoles, mais malgré ça, vraiment, comme le système de contrôle n'est pas assez évident, donc nous trouvons beaucoup plus autour des universités, c'est là où il y a le plus de débit de boissons, autour des écoles, des lycées, il y a beaucoup de débit de boissons. Pendant la récréation, pendant au niveau de la soirée, on a trouvé beaucoup d'enfants qui vont dans ces débits de boissons. qui ont pignon sur rue. Et je vous ai dit qu'il y a par exemple des carrefours où on appelle carrefour, j'ai raté ma vie, parce que à cause de la jeunesse qu'on y trouve, les gens commencent à consommer très tôt et tard le soir, alors ces jeunes-là, on pense qu'ils ont vraiment raté leur vie.
Merci beaucoup, hein, docteur Jean-Louis Jean. Je rappelle que vous êtes psychiatre à l'hôpital de la Quintinie à Douala, au Cameroun. Je voudrais justement, professeur Amine Benyamina, qu'on parle des lobbies de l'alcool. Vous dénoncez dans votre livre toute une énorme partie sur ces lobbies de l'alcool, sur cette loi Evin, qui était une loi justement de protection, hein, qui interdisait la publicité pour éviter une trop grande consommation d'alcool. Et vous dites, elle a été complètement détricotée, cette loi.
Oui, c'est une loi qui est arrivée à un point d'équilibre intéressant. Parce que souvent, on nous traite d'ayatollah, de terroriste, ou d'empêcheur de jouir. Non, c'est pas ça, la question. On est des professionnels de la santé. Notre idée et notre but, c'est de protéger des personnes vulnérables. C'est de l'importance, de la responsabilité des pouvoirs publics. Alors, depuis qu'elle est sortie, cette loi, elle a été ciblée
par... Elle a combien de temps? Elle a 30 ans?
30 ans à peu près, 92, comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que par des assouplissements, par des amendements, des aménagements, on a fini par finalement évider la loi de ce qui était au centre, un équilibre entre le plaisir et la convivialité. Dans ma bouche, il ne faut pas entendre quelqu'un qui dit il faut arrêter de consommer. Hein. Mmh. Vous me connaissez.
Vous ne dites pas qu'il faut interdire l'alcool.
Vous connaissez mes positions sur les drogues. Mmh. Elles sont très, très claires. Simplement, il y a un point d'équilibre qu'il faut avoir. Et là, le point d'équilibre a été rompu. Notamment l'année dernière, lorsqu'on a vu ce spectacle affligeant de ce texte qui a permis la publicité et qui a ignoré totalement ce qui n'existait pas lorsque la loi est sortie, Internet et les jeunes. Mmh. On a ciblé des populations qui sont clairement citées dans notre ouvrage.
Donc, en est où l'interdiction de la publicité? Elle n'existe plus,
en fait. Elle existe de fait. Elle n'existe pratiquement plus. Derrière les no-touristes, vous avez peut-être, vous comme moi, vu cet été une minute un terroir sur la télévision publique où derrière la beauté de nos pays en flattait une région et le vin. Pourquoi pas?
On dit beaucoup aussi que l'alcool, finalement, ça rapporte des taxes à l'État. Et alors là, vous dites, on a complètement une idée fausse parce que ça rapporte beaucoup moins de taxes que ce que ça coûte. Les chiffres, c'est quoi, hein?
Et là, c'est une réalité absolue. Et moi, j'appelle, puisqu'on est en période de réflexion sur les deniers de l'État, j'appelle les personnes responsables de ce type de chiffres et des décideurs à réellement poser une règle très simple. 1 plus 1 égale 2, je veux dire.
Ça rapporte combien, les taxes? J'ai les chiffres, moi. Du coup, j'ai noté 3,3 milliards de recettes avec les taxes. Et le coût de l'alcool, c'est 120 milliards d'euros.
Absolument.
En maladie, en accident,
en arrêt, en accident. Et ce sont des rapports à la fois faits par Pierre Kopp, qui est un économiste de la santé, mais pas que. La Cour des comptes avait également montré ça. Simplement, on n'en fait pas la publicité et on travaille en quelque sorte par copinage et par phénomène de lobbying dans les couloirs des deux chambres.
Et vous dites que les lobbies de l'alcool ont des alliés au Parlement, clairement.
Partout, évidemment, partout.
Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Il faudrait que la loi passe de manière claire en s'appuyant sur la réalité. Il y a 50
000... Donc pas de publicité pour l'alcool, c'est ça que vous... Qu'est-ce que vous demandez, clairement?
Pas de publicité pour l'alcool, absolument, et pas de publicité indirecte. Protéger les jeunes, protéger les personnes vulnérables, permettre à la filière viticole de s'exprimer dans un cadre qui est un cadre d'équilibre. Bon, notre idée, ce n'est pas d'annihiler, de faire disparaître ce qui est absolument... quelque chose d'extrêmement important pour nous, c'est-à-dire la filière viticole qu'il faut protéger. Alors, c'est pas elle d'ailleurs qui est ciblée dans notre ouvrage. Ce sont les grands groupes internationaux qui d'ailleurs
on l'a entendu tout à l'heure. Et les alcools forts d'ailleurs.
Et puis le ciblage sur les jeunes. Là-dessus, on est clair, on est intraitable. Les jeunes, les femmes, c'est que les femmes finalement, on rejoint les hommes en matière de vulnérabilité.
Et de consommation d'alcool.
Et de problématiques.
Alors, vous accusez les lobbies de l'alcool et vous dites aussi à un moment, j'accuse certaines écoles de commerce et certaines universités.
Oui, parce que à travers la porosité qu'ils ont mise en place avec les grands groupes alcooliers qui financent finalement la vie associative dans ces grandes facs, ces grandes écoles, on a affaire à des jeunes qui parfois périssent. Certains périssent, c'est le cas de le dire. Donc il y a des choses qui ont été faites.
Avec des soirées organisées dans ces grandes écoles et dans ces universités, avec une consommation d'alcool...
Édifiante. Ça commence à bouger. Que les choses soient claires, on n'est pas là pour dire ne buvez pas. On est là pour protéger les populations vulnérables et dénoncer.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, je reçois le professeur Amine Benyamina qui vient de publier « Comment l'alcool détruit la jeunesse, la responsabilité des lobbies et des politiques ». C'est un livre qui paraît aux éditions Albin Michel. Et on a Jean Bosco qui nous appelle de RDC. Jean Bosco, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute.
J'ai 29 ans. Auparavant, je ne buvais pas. Mais avec l'influence d'un ami, j'ai commencé à boire. C'était à l'âge de 27 ans. Mais à un certain moment, l'ami qui m'avait entraîné ne but plus. Ça fait déjà 2 ans. Et il m'interdit de ne pas boire l'alcool. Et pour moi, l'alcool n'est pas une préoccupation car je peux prendre deux ou trois bouteilles par mois. Maintenant, je voudrais savoir quelle quantité de l'alcool est tolérée par l'organisme humain pour son bon fonctionnement.
C'est ça.
Et ma deuxième préoccupation est-ce qu'il est conseillé de prendre l'alcool?
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à conseiller de prendre l'alcool? On va déjà répondre. On peut très bien vivre sans alcool, clairement.
On peut très bien vivre sans alcool, comme on peut très bien vivre sans viande, comme disent les véganes. Hein, oui, mais c'est pas ça la question.
Donc
la question
ça, c'est le premier point. On peut tout à fait vivre sans alcool. Il n'y a rien de bon pour la santé dans l'alcool. On enlève cette image-là de l'alcool.
Les problèmes et les effets de l'alcool sont proportionnels à la quantité consommée.
Alors,
on le sait de plus en plus.
Tout le monde vous pose cette question. À partir de quand c'est un problème? À partir de quelle quantité? Enfin, on a tous cette question-là.
Si vous et moi, nous allons boire ensemble tout à l'heure. vous allez réagir et je vais réagir différemment. Et donc cette question, elle a son importance, mais elle est relativisée par la sensibilité et la qualité, la quantité d'alcool consommée. Mais évidemment, il y a des seuils. Vous savez,
c'est
seuils.
Mais le seuil, c'est quoi?
Alors les seuils. Alors, je vais raconter une histoire de seuil, Claire. Lorsqu'on a parlé des seuils 14 et 21 verres à partir desquels...
Par semaine.
Hommes et femmes à partir desquels il était possible...
C'est pas juste vous avez le droit d'en boire
donc,
plus que nous.
Voilà, donc... Et parce que, hélas, vous voyez, les femmes
sont
inégaux vis-à-vis de l'alcool. Voilà une différence notable et importante. Et à partir de ces seuils, l'industrie de l'alcool et le lobby de l'alcool a dit, mais vous pouvez boire jusqu'à 14 pour les femmes, jusqu'à 21 pour les hommes. Mais je connais des femmes qui, avant 14 verres,
sont
ne vont pas bien et font des problèmes. Donc, vous voyez, les seuils sont extrêmement dangereux. Du coup, la Santé publique France, qui est la grande agence santé publique, a sorti entre les deux tours des élections un texte qui est très important, qui, je l'espère, se transformera.
C'est mieux de ne pas boire, en gros.
Absolument. Ils disent que les problèmes peuvent intervenir même avant.
Dès les premiers verres.
L'alcool n'est pas un produit dans le cerveau.
Quand on dépasse cette quantité par semaine, 14 pour les femmes, donc de verre et 21,
on est clairement dans une zone. On est clairement dans une zone.
L'autre élément, beaucoup de jeunes disent mais moi je contrôle, je bois que le vendredi soir et le samedi soir, mais je contrôle. Est-ce que ça c'est vrai ou pas?
Alors
ça,
vous savez, les formes d'alcoolisme, pour faire court et que nos auditeurs comprennent, peuvent prendre plusieurs visages. Il y a des gens qui boivent tous les jours 2 verres et qui sont alcooliques sans s'en rendre compte parce que s'ils ne boivent pas les 2 verres, ils vont trembler. Certains, si tous les vendredis, le cerveau a programmé de faire la beuverie le vendredi, si un vendredi ils ne le font pas, c'est pareil.
Donc ça, c'est un problème aussi dans ces cas-là.
Évidemment, forcément. Ouais. C'est cette perte de liberté et la modification de la réponse biologique qui pose problème.
On a au téléphone Étienne qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Étienne Eungar, si je prononce bien votre nom. Vous travaillez justement au CEDIRA, que j'ai évoqué tout à l'heure, le centre diocésain de la recherche action en alcoolologie à N'Djamena au Tchad. On avait fait tout un reportage d'ailleurs sur ce CEDIRA il y a quelques années. Vous voulez justement nous alerter sur cette consommation d'alcool, entre autres au Tchad. Bonjour Étienne.
Comme je l'ai souligné en effet, c'est que la...
Alors attendez, Étienne Eungar, on vous entend très mal, donc il faut vraiment que vous parliez très près du téléphone et le plus fort possible, et surtout pas sur haut-parleur ou avec une oreillette.
Je disais comme j'avais souligné, est-ce que vous m'écoutez là?
Oui, ben là on vous entend beaucoup mieux, vous savez. C'est pareil pour tous les auditeurs, hein. S'ils parlent bien dans le téléphone, on vous entend.
Okay. D'accord. Comme vous l'avez dit, actuellement, au Tchad, la consommation d'alcool est un problème sérieux, un problème de la santé publique, mais aussi un problème social. Comme je l'ai dit, il y a de cela trois ans en arrière, qu'à la consultation, nous recevons que les personnes âgées, hein, on peut dire que l'alcoolisme est un problème des personnes âgées. Mais il y a 2 dernières années, par là, que nous sommes actuellement submergés par la demande d'aide de la jeunesse, qui vient tous les jours, demander de l'aide au CEDIRA.
Et ça, on l'a bien vu, nous, dans les appels qu'on a eus. On a eu énormément de jeunes. Pendant longtemps, c'était un problème de vieux. C'était la même chose, professeur Abinibi-Diamina. Problème de vieux, et aujourd'hui, ça devient un problème de jeunes.
Absolument, parce qu'on a remarqueté l'alcool. C'est devient moins ringard. On consomme des alcools colorés, sucrés. On a même exhumé des alcools qui étaient des alcools un peu ringards, des alcools de couleur et tout ça. On les a remarquetés. On a mis un peu de d'autres alcools et des
un
fruits.
Un peu de sucre en plus,
et c'est parti.
Ça se boit tout seul.
Voilà. Ça coûte pas cher et surtout ça cible bien et puis il y a un effet de saison.
Ah oui, absolument. L'été, on a bien vu ça.
Du rosé sucette aussi.
Oui, c'est ça, absolument. Oui, j'ai vu ça. Absolument. Incroyable. Oui. J'ai l'impression que c'est du sirop.
Mais rosé sucette.
Et en fait, il y a de l'alcool dedans. Absolument, mais on s'en rend même pas compte. Et Étienne Ungar, qu'est-ce que vous arrivez à faire en termes de prise en charge de ces jeunes qui justement sont en trop forte consommation d'alcool?
Alors, ce que nous sommes en train de faire pour le moment, c'est que quand ils viennent demander de l'aide, on les envoie à l'hôpital pour une suite de désintoxication. Et ils y restent pendant 10 jours hein, pour être sûr que la dépendance physique va peut-être maîtrisée. Et à la sortie, nous les recevons ici au centre pour l'accompagnement psychologique qui est de part par la consultation groupale basée sur le système de la transpilarité. Et puis des accompagnements individuels psychologiques. Et après, comme le problème de la consommation d'alcool au Tchad est beaucoup plus lié à la situation de la précarité du pays, alors on essaye de faire ce qu'on appelle la réinsertion sociale, ça veut dire de les aider à les orienter dans la vie active.
Oui, c'est ça. Les aider aussi à trouver un travail, à avoir une activité, c'est aussi ça qui permet de s'en sortir. Merci beaucoup, hein, docteur Jean-Louis Jean. Et alors, si l'éternelle question, vous arrivez à obtenir des résultats?
Alors, comme l'année dernière, nous avons essayé de faire un petit travail des statistiques pour voir, il s'était avéré que sur les 100 personnes reçues à la consultation et envoyées à la fin de la consultation, 50% de ces personnes-là sont restées abstinentes. Et 100% ont refusé ou bien ont été perdus de vue. Alors, ce qui fait que cela nous a vraiment encouragé de continuer avec la lutte contre l'alcoolisme.
Et donc, vous confirmez ce que dit le professeur Beniamina, c'est qu'on arrive à s'en sortir. Et c'était bien vous, Étienne Ungar, qui parlait en ce moment de N'Djamena Ochan. Merci beaucoup d'être intervenu. Et on donnera ces coordonnées du CEDIRA. On va le mettre sur notre site internet, ce centre, justement, de recherche action en alcoolologie qui est basé à N'Djamena Ochan. Professeur Beniamina, on obtient de bons résultats maintenant, justement.
Oui, bien sûr.
En cas de dépendance à l'alcool.
On peut obtenir des bons résultats. C'est un travail d'équipe, un travail de motivation, une prise en charge, une évaluation des problèmes somatiques, on peut y arriver.
Est-ce que vous... Et c'est une prise en charge globale.
Globale, absolument. Et puis, amener les gens, c'est pas facile, travailler avec la famille, l'entourage. Je voudrais faire une petite remarque, Claire, si vous me permettez. Cette émission est particulière parce que je trouve quand même, il y a un vrai cynisme d'aller investir un continent comme l'Afrique. Où on connaît quand même les difficultés économiques de ce pays, certains pays qui sortent d'une longue période de décolonisation, aller vendre quelque chose qui met des personnes en situation de difficulté personnelle, financière, qui explose des familles, alors qu'on n'a pas un système sanitaire aussi organisé qu'on peut l'avoir en Europe, je trouve ça... Bon, je vais dire
Vous dénoncez le cynisme de l'industrie là-dessus.
Je trouve ça vraiment dégueulasse, le mot est dit, franchement. Si vous me permettez...
Tout à fait, vous pouvez tout à fait. Je voudrais qu'on revienne sur le baclofène, hein, parce qu'on a longuement, on a fait de nombreuses émissions sur ce, entre guillemets, nouveau traitement dans la prise en charge des dépendances à l'alcool, qui est en fait un vieux médicament qui servait en neurologie. Et il y a eu, alors, plusieurs études qui donnent quoi comme résultat d'efficacité?
Alors, on a des études avec des résultats qui sont mitigés, plus ou moins positifs.
C'est-à-dire quoi? 50%?
Oui, voilà. Alors... Que les choses soient claires, c'est un produit qui a une histoire particulière, qui n'a pas respecté le cadre particulier des essais, parce que...
Avec une étude, un essai clinique,
et surtout ce qu'on appelle le dungeoning, le ranging, et puis ce qu'on appelle le modèle animal. Mais, devant l'imminence et les problèmes liés à l'alcool, un certain nombre de praticiens, dont moi, mais pas que, on était tous nombreux, on a commencé à donner ce baclofène suite au témoignage historique du professeur Olivier Amezen. Et puis on est ensuite allé vérifier pour pouvoir rentrer dans le cadre. Il y a un certain nombre d'étapes qui n'ont pas été vérifiées.
Et alors, finalement, est-ce que c'est efficace ou pas?
Écoutez, c'est très efficace dans la pratique clinique, mais il y a un peu de déception sur les résultats. Ce qui fait qu'on a à faire un vrai clivage entre la nécessité de respecter un cadre d'essai particulier et la réaction de l'ANSM récemment sur le dosage, les 80 mg. Parce que,
c'est ça. Donc
voilà,
l'ANSM,
on a eu des retours, l'Agence nationale du médicament
dit c'est pas possible d'en utiliser en si grande quantité.
Voilà, on a des problèmes. Certes,
des effets secondaires.
On est en train de réfléchir, on est en train de réanalyser pour voir un peu les données. Alors, la pire des choses, c'est d'envoyer un signal de nocivité du produit, parce que ça a aidé beaucoup de gens. Et deuxième élément, c'est de ne pas effrayer les gens et de ne pas demander à ceux qui sont en forte dose et qui vont bien. Et donc, c'est tout ça qui est important d'avoir en tête. J'espère qu'on pourra s'en sortir et qu'on appelle de nos voeux cette grande réunion qui devrait, j'espère, avoir lieu, du moins la Fédération française d'addictologie et que je préside, sera présente et donnera un peu son avis là-dessus. Il n'est pas question d'envoyer un signal péjoratif concernant ce produit.
Vous continuez à l'utiliser, justement.
Évidemment, je ne suis pas le seul, évidemment. On est nombreux à le faire.
Et parce que ça donne justement de
j'ai des patients qui répondent très bien. Je ne vois pas pourquoi, alors qu'on a une vraie disette sur le plan de l'arsenal thérapeutique, je devrais m'en séparer.
Vous en privez. Donc, il y a des recherches qui continuent à être menées sur ce baclofène.
Absolument. Et dans le monde, maintenant.
Et dans le monde. Ah oui, et dans le monde. C'est important parce que ça a beaucoup démarré en France.
Il n'y a pas que les Français qui le font, il y a des résultats étrangers.
Et est-ce qu'il y a d'autres recherches pour trouver des médicaments dans cette prise en charge de la dépendance à l'alcool et des addictologies, d'ailleurs, en général?
Pas assez. Pas suffisamment. L'industrie pharmaceutique, elle est pragmatique. Elle a besoin d'investir de l'argent pour pouvoir avoir un retour. Vous avez vu que ce qui a marché, c'est lorsqu'on a investi beaucoup d'argent pour l'hépatite C, un très gros retour. Si on a le même effet sur l'hépatite C, eh bien bingo, peut-être que...
Et vous trouvez qu'il n'y a pas assez de recherche dans ce domaine, c'est ça que vous êtes en train de dire?
Il n'y a pas suffisamment de recherche, je l'espère. Alors que, hélas, on le voit bien, il y a beaucoup de patients qui ne vont pas bien.
Oui, on le sent bien. Merci beaucoup, professeur Amine Benyamina. Je rappelle que vous avez publié « Comment l'alcool détruit la jeunesse, la responsabilité des lobbies et des politiques ». C'est un livre qui paraît aux éditions Albin Michel et que je conseille, qui est édifiant d'ailleurs sur la force de ces lobbies. Je suis désolée, il y avait plusieurs auditeurs qui attendaient encore pour pouvoir passer dans l'émission, entre autres Barry et Guizet. Je suis désolée, mais on n'avait pas le temps. Lundi, nous parlerons du dopage. EPO, hormones, amphétamines, quels sont les risques pour la santé? Où en sont les recherches dans ce domaine? Un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, à Cétous Amaké, Ophélie Lassène, Laurent Hérault et Nicolas Benita pour cette semaine. Bonne fin de semaine à tous et bien sûr, à lundi.
Priorité santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.